Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, chers auditeurs, dans Asialogie, on parle d'évaporation et de déménagement. Qui sont les Joatsu, les disparus volontaires? On vous explique tout. Avant d'accompagner Didier au parc de Molévrier pour profiter du printemps, parce que
le printemps est arrivé,
il est temps d'aller l'admirer.
C'est ça, et c'est un bel endroit pour le faire.
Disparaître au Japon, c'est devenir un Joatsu, un évaporé. C'est un vrai phénomène social qui ne cesse de s'amplifier avec, depuis peu, l'émergence d'un nouveau business, les Yonigeya, des entreprises qui permettent de commencer une nouvelle vie ailleurs sans laisser de traces. D'ailleurs, on reparle du pont de Ligonès récemment.
Oui.
Peut-être qu'il a fait appel à une Yonigeya.
Ouais.
Sait-on jamais.
Qui sait ?
Alors, le mot Joatsu est apparu dans les années 60, période de crise au Japon, où un grand nombre de Japonais ont compris que pour échapper à une situation inextricable, il existait une alternative beaucoup plus simple et facile que le suicide, à condition d'avoir un peu d'argent.
Comme toujours.
C'est la disparition pure et simple.
Bah tiens.
Alors, il faut savoir que la police n'interviendra pas sans une bonne raison dans les situations de disparition. Il leur faut un crime ou un accident.
Okay.
Autrement, ce n'est pas leurs affaires.
En même temps, voilà, une personne peut avoir le choix et décider de disparaître, quoi.
Oui, bien sûr. Mais enfin, en France, ça ne se passe pas tout à fait comme ça.
En France, si la personne a décidé et que la disparition n'est pas inquiétante,
il y a un fichier des disparus.
C'est un petit peu différent.
C'est différent. Tout ce que les proches peuvent faire au Japon, c'est de payer très cher un détective privé ou attendre le retour éventuel à la maison du Joatsu. Alors, on estime en 2023, au Japon, qu'il y a chaque année environ 100 000 nouveaux évaporés qui abandonnent tout de façon préméditée pour la très grande majorité des cas. Alors, pour vous donner une idée, chers auditeurs, il y en a 13 000 en France. Donc, entre 100 000
rapport,
et 13 000... Et il y a aussi des cas au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne, et dans les autres pays du monde, ce serait quand même anecdotique.
D'accord.
Ou si les gens disparaissent, ce n'est pas pour les mêmes, ce n'est pas dans des pays, on va dire, qui ont des pays de droit.
D'accord, voilà. Oui. Alors, et pourquoi on devient un Joatsu ?
Alors, il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a bien sûr la très forte pression sociale avec l'obligation de réussite professionnelle.
Tout à fait, on y revient.
Et l'obligation de réussir aussi familialement parlant, avoir une famille, des enfants. Mais la principale raison est probablement le contexte culturel qui le permet. Parce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être difficiles à vivre en Europe, dans d'autres pays du monde. Mais c'est pas facile de disparaître complètement. Qu'au Japon, c'est facile. C'est même le contexte culturel le favorise, contrairement aux autres pays du monde.
Très bien.
C'est le sacro-saint tabou sur la protection absolue de la vie privée qui va faciliter la disparition.
D'accord.
Alors souvent, ce sont des personnes qui sont lourdement endettées ou qui veulent s'extraire d'une vie familiale ou amoureuse qui les étouffe, ou des personnes qui sont harcelées.
Ouais.
En fait, ce sont des personnes qui ne peuvent ou ne veulent plus faire face à leur vie devenue pour eux insupportable.
Je comprends.
Alors, il faut retenir aussi que les spécificités culturelles japonaises, comme quitter une entreprise, échouer un examen, être endetté, est considéré comme honteux. De même que le divorce. Alors, c'est sûr que, du coup, si on ne peut pas divorcer, c'est compliqué.
Oui, forcément.
Alors, devenir Joatsu est aussi une vraie solution pour épargner à la famille les dépenses importantes qui peuvent être associées au suicide, comme par exemple les dettes, frais de nettoyage et les frais d'interruption de service.
D'accord.
Dans le contexte des suicides sur une voie ferrée. Alors, je ne sais pas en France s'il y a des frais d'interruption de service demandés aux familles.
Je ne crois pas. Je ne sais pas.
En tout cas, ils sont très pragmatiques,
ça,
les Japonais.
Ultra pragmatique, là.
C'est
vraiment
ultra pragmatique.
Une vision quand même assez étonnante.
Ouais. Bah, très, très, très concrète et pragmatique et matérielle, quelque part. Alors,
bon, pour tout abandonner comme ça, c'est donc un moyen assez simple pour prendre un nouveau départ alors, au Japon, surtout pour les Yoni Geya.
Bah oui, avec les Yoni Geya, c'est un peu difficile à admettre, Didier, mais avec ça, avec ces entreprises-là, c'est facile. Mmh. Ça facilite l'évaporation.
D'accord.
Alors, c'est un business qui est tout à fait légal. C'est une assistance logistique très efficace qui peut aller jusqu'au prêt de logement dans un lieu secret. Et même plus, si on y met...
Selon les moyens, j'imagine bien.
Exactement, c'est adapté aux moyens aussi. Alors, il y a des centaines de personnes qui feraient chaque année appel à leur service. Alors, ça coûte plusieurs milliers d'euros.
Tout de même.
Oui. Alors, pour les moins fortunés, il existe quand même en librairie des guides de la disparition volontaire avec des titres évocateurs comme « L'évaporation parfaite »,« Reprenez votre vie à zéro » ou « Le manuel complet de la disparition ».
D'accord, le petit guide
c'est
la bonne évaporation.
Oui,
okay.
Ça me fait sourire. Mais
oui,
c'est
un petit peu quand même.
C'est triste,
c'est tragique
en fait.
Quand même,
c'est tragique.
Aussi, oui, bien
oui
sûr.
C'est tragique. Alors de plus, comme la vie privée est un tabou absolu, quasiment, il est possible de disparaître facilement. Parce que personne ne posera
de questions. Bah voilà.
Alors il faut savoir que contrairement à la Chine ou à la Corée, les images des caméras de surveillance sont inaccessibles aux familles et à la police, sauf en cas de crime. Ou d'accident.
D'accord.
Et les transactions financières ne sont pas tracées.
Ouais, c'est assez réglementé, en fait.
C'est réglementé, mais un petit peu à l'envers de ce qui se passe
différent.
Chez nous.
Oui, bien sûr.
Et de ce qui se passe, bien sûr, en Chine et en Corée, où tout est tracé. Et par exemple, en Corée, et je pense qu'en Chine, c'est pareil, il y a des caméras embarquées dans toutes les voitures. Mm-hmm. Et on n'a pas le droit d'enlever la carte SD qui se trouve à l'intérieur
D'accord.
de la caméra. Ça fait partie des obligations pour conduire.
Bah, même si on y vient un peu en France, ça reste timide, quoi.
Ça reste timide, mais...
ça doit être terrible pour les familles, quand même.
Bah, c'est terrible pour les familles. Elles ont bien sûr beaucoup... elles ont du mal à accepter parce qu'elles
J'imagine.
Ne peuvent pas rechercher le joatsu s'il est majeur.
Oui.
S'il est mineur, il sera recherché, mais s'il est majeur, il ne le sera pas. Et sans détective privé, rien n'est possible. Et oui, il n'y a pas de fichier de personnes disparues au Japon, contrairement à l'Europe.
Mmh.
En Europe, il y a les personnes disparues, elles sont quand même fichées.
Mmh.
Maintenant, on fait une pause, Didier. On va écouter une chanson qui fut un tube mondial en 1961. Une chanson du crooner japonais qui s'appelle Kiyo Sakamoto. C'est la chanson du magnifique film de Gorō Miyazaki, La Colline au Coquelicot. Et c'est dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Hitori pochi no yoru.
Voilà, on va laisser Q Sakamoto et puis on va retrouver Corinne sur Asialogie, Radio Alpa 107.3 pour continuer à parler et savoir qui sont les Yoni Gaia.
Alors, Yoni Gaia veut dire, et ça veut tout dire, oui. Déménagement de nuit.
D'accord.
Il n'existe aucune statistique sur le nombre de Yoni Gaia, mais il serait plusieurs dizaines à offrir toutes sortes de services en fonction du problème et de la situation. Une seule personne ou une famille entière à disparaître. Ce sont des maîtres de l'évasion, ces Yoni Gaia. Ils ont des détectives privés, des déménageurs, des techniciens et même des psychiatres.
Oui.
Et gagnent entre 2000 à 50 000 euros par mission, selon la distance, selon le risque et la complexité de l'affaire.
Ouais, j'imagine.
Alors
bien.
Ça peut aussi, bien sûr, dépasser les 50 000 euros. Voilà. La disparition commence par un coup de téléphone à l'agent Choisy. Point de suspension. Puis, après avoir fixé les détails et le tarif de l'opération, les Yoni Gaia, en fait, ils font un devis, hein,
oui,
tout simplement,
voilà.
Comme un déménageur normal. C'est une entreprise. Les Yoni Gaia conviennent d'une rencontre avec le client pour évaluer la situation et vont inspecter le quartier, l'appartement, dresser la liste des objets personnels à déménager, comme le frein déménageur normal.
Ouais, c'est le job, quoi.
Voilà. Mais le client idéal, il faut le savoir, c'est quand même le célibataire avec un petit sac. C'est beaucoup plus facile pour disparaître.
C'est sûr.
Alors, le lieu choisi pour la nouvelle vie sera dans une grande ville, hein, comme Tokyo ou Osaka, où il est beaucoup plus facile de passer inaperçu. Et il faut savoir qu'à Osaka, il y a des quartiers qui sont un petit peu des zones de non-droit quand même à Osaka.
Ah,
plus facile encore de disparaître
alors,
à Osaka qu'à Tokyo.
Du coup, Corinne, ça peut être dangereux alors pour les Yoni Gaia ?
Alors, ça peut.
D'accord.
Particulièrement dans les cas extrêmes de personnes endettées surveillées par leurs usuriers ou par la mafia.
Eh oui, forcément.
Tout dépend à qui on emprunte. Il faut savoir que les taux d'usure peuvent être très, très, très élevés au Japon. Ça peut augmenter de 50% tous les 10 jours. Des taux de folie. Si on emprunte hors des courants des banques normales, ça peut devenir très compliqué très rapidement.
Et forcément, après, ils vous recherchent un tout petit peu. Quoi.
Exactement. Il faut donc ruser pour faire le déménagement. Alors, les Yoni Gaia se font passer pour des laveurs de carreaux, des livreurs, des brocanteurs, afin d'opérer sans éveiller les soupçons. Alors, les Yoni Gaia vérifient aussi la crédibilité de l'histoire de leurs clients et refusent les missions qui leur semblent trop hasardeuses. Et ils vont choisir le moment le plus opportun pour la cavale de leurs clients. Et le plus souvent, ce sera pendant la nuit ou dans fin de matinée.
Oui, forcément. Alors, du coup... Moi, je n'ai pas acheté le guide. Comment ça se passe, un déménagement, alors ?
Alors, bah, c'est très simple, Didier. Si c'est une personne seule, et c'est beaucoup plus compliqué si c'est d'une famille.
Forcément.
On s'en douterait.
Hein. Oui.
Alors, pendant les jours précédant l'évaporation, les déménageurs emportent les objets peu encombrants discrètement dans des petits sacs, car les objets personnels assurent une certaine sécurité psychologique aux évaporés. Il y a des psychiatres dans les Yoni Gaia, des psychologues, ils sont équipés. Hein.
C'est ça.
Et surtout quand il y a des enfants qui sont entraînés dans l'aventure, ils vont tout d'un coup basculer dans un autre monde.
Oui, c'est
ils ont
compliqué.
Besoin d'avoir leur doudou avec eux,
bien
leurs
sûr.
Objets personnels. Mais jamais le mobilier n'est emporté.
Oui.
Alors, au jour prévu, la personne ou la famille ne doit absolument rien changer à ses habitudes quotidiennes. Chacun doit jouer son rôle habituel. Et les Yoni Gaia le ou les récupèrent à des points de rendez-vous convenus. Entre-temps, une équipe va s'occuper du déménagement. Et en un clin d'œil, tout est mis dans des camionnettes, tout simplement. Ou dans une voiture, tout dépend du volume.
Ouais.
Alors, dans certains cas, il arrive même qu'une voiture supplémentaire soit prévue, non pas pour mettre
des
affaires, mais pour bloquer tout véhicule tenté de les suivre par rapport aux usuriers qui pourraient guetter ce qui se passe.
On est dans un polar, là, quand
même. On est quasi dans un polar.
Et alors, comment ça se passe après le déménagement ? Quel est le service après-vente des Yoni Gaia ? J'ai l'impression de faire de la publicité, là.
Mais oui, mais il y a un véritable service après-vente. Vente des Yoni Gaia.
D'accord.
Alors, une fois que le client est en lieu sûr, il s'agit pour lui de rester caché. La planque peut durer des années, voire toute une vie, ce qui exige une discipline de fer.
Ah, j'imagine, oui.
Alors, le jiu-jitsu doit rompre entièrement avec son passé, ne plus jamais conduire, sauf s'il s'est fait faire de faux papiers, bien évidemment. Mm-hmm. Pour travailler, ce sera aussi très compliqué, en dehors de petits boulots plus ou moins clandestins, payés en liquide.
Ah oui, tout de même, ça va jusque-là.
Et oui, ça va jusque-là, parce qu'il n'aura plus, oui, il aura plus de papiers réguliers. Mm-hmm. Et si le client a beaucoup d'argent, il pourra acheter les papiers de quelqu'un d'autre et prendre son identité. C'est le service qui s'appelle le service de renaissance, qui coûte très cher, et ce n'est pas sans risque, parce que les papiers sont généralement ceux rachetés à des SDF, donc acheté véritablement.
D'accord.
Et rien ne dit que la situation sera confortable, parce que le SDF peut être un jiu-jitsu aussi.
Oula.
Avec des harceleurs ou une famille sur ses traces.
Ah là, ça se complique là. D'accord.
Et oui. Alors, le service des Yonigeya garantit généralement la disparition pour 1 ou 2 ans, afin de donner à leurs clients le temps de se refaire une nouvelle vie, de s'y habituer. Mm-hmm. Je dirais le positif de ces agences, c'est qu'elles ont aussi un rôle de soutien psychologique et aident vraiment leurs clients, qui est au bout du rouleau, il ne faut pas l'oublier. Et ce sont des personnes qui sont souvent au bord du suicide. Alors, pour préserver la confidentialité de l'évaporation, les Yonigeya mémorisent toutes les informations et détruisent toute trace écrite. Alors aussi, j'ai lu un truc que je n'ai pas vérifié, parce qu'on vérifie tout quand même,
Corinne est très assidue, oui.
Oui, il semblerait que quand on est endetté dans une banque normale et que si on s'évapore, au bout de 5 ans, la dette est effacée.
Ah.
Je parle des banques normales, pas des usuriers.
Oui, j'ai bien compris que les yakuza...
Donc, ce qui pourrait expliquer qu'il y ait beaucoup de Japonais qui empruntent...
C'est tentant, du coup.
C'est un peu tentant. Mais bon, il faut accepter. Il faut que ça vaille vraiment le coup. Il faut vraiment avoir des gros ennuis.
Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup,
finalement.
Non, c'était intéressant d'en parler, mais oui, c'est étonnant.
C'est unique au Japon. Voilà.
D'accord.
Bon, Didier, on va pas déménager.
Non, on reste là.
On va rester à Radio Alpa.
Oui.
Et pour cette deuxième pause musicale, on va aussi rester sur la colline aux coquelicots avec la chanson, le thème musical du film de la colline aux coquelicots. Donc, c'est Sayonara no Natsu.
C'est parti.
Here
Vous écoutez Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, c'est Asialogie et c'était la chanson du film La colline au coquelicot, Sayonara no Natsu. Maintenant, on part à Mauts-Lévriers, Didier. Didier, tu nous emmènes dans ce merveilleux parc.
Avec grand plaisir.
Pour admirer Sakura.
C'est ça. Ouais, c'est Mauts-Lévriers, bon, j'y suis déjà allé plusieurs fois, j'aime beaucoup, c'est un parc très ancien. Puis assez grand quand même, 29 hectares, ça commence à faire.
Oui, ça commence à faire.
C'est un parc qui a une longue histoire. Là. Aujourd'hui, c'est devenu le plus grand parc oriental d'Europe. Alors, c'est pas très très loin du Mans. Hein. Bon, il faut faire un peu de route, certes, mais ça se fait assez bien en deux heures de voiture. C'est situé tout près de Cholet, en fait. On peut même y aller en train, en passant par Angers, puis séjourner au beau château Colbert auquel il appartenait. Bon, alors... Il accueille chaque année quand même 150 000 visiteurs, c'est pas rien. Le parc est organisé autour d'un lac artificiel alimenté par une rivière, la Moigne, qui le traverse d'est en ouest, on en reparle plus tard. C'est un endroit très vallonné avec plus de 400 sortes d'arbres, plantes, dont des azalées, des camélias, des rhododendrons, des érables du Japon, des ginkgo biloba, et des cerisiers du Japon. Enfin, que des trucs que j'aime bien avoir dans mon jardin, quoi.
Oui, mais là, il est plus grand. Moi aussi, j'aimerais bien.
Il est plus grand. Et on y trouve aussi des éléments de décor orientaux comme des portiques peints en rouge, les fameux torii japonais, des lanternes de pierre et aussi la réplique d'un temple cambodgien.
Donc c'est voyage garanti.
Ah oui, ouais, clairement. Alors ça, vraiment.
Dépaysement.
Pour celui qui aime la nature et tout ce qui est un peu oriental, c'est un joli voyage à faire. On est dépaysé et on n'a pas besoin d'aller bien loin pour ça.
Et alors, quelle est son histoire, Didier,
son histoire.
Ce jardin?
Alors, je te raconte tout. En 1680, Édouard-François Colbert. Colbert, ça doit rappeler quelque chose.
Oui, c'est un nom qu'on connaît.
C'est le frère de Jean-Baptiste, le ministre de Louis XIV, qui reçoit en dot de son épouse le château de Mauts-Lévriers avec le parc qui est attenant. Pendant les guerres de Vendée, le château il a été détruit, puis ensuite reconstruit entre 1815 et 1830 avec la création d'un premier parc romantique. Et en 1895, le domaine Colbert est racheté par Eugène Bergère, un riche industriel choletais du textile. Et là-bas, le textile, ça rapportait pas mal, les mouchoirs.
Ah oui, c'est vrai à l'époque.
Et oui, c'est ça. Le célèbre architecte parisien Alexandre Marcel va devenir son gendre. Et Alexandre était un passionné d'Extrême-Orient. C'était à la mode à l'époque, l'orientalisme.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est ça.
Oui.
Donc du coup, en 1889, il va réaliser à Paris, rue de Babylone, une salle des fêtes au décor japonais. Cette salle, c'est devenu aujourd'hui le cinéma La Pagode. Donc, Alexandre Marcel
il est célèbre.
Oui, c'est
Alexandre
célèbre, La Pagode.
Oui.
Et Alexandre
Pagode
Marcel aussi. voilà. Il va s'investir aussi dans l'exposition universelle de 1900 à Paris, pour laquelle il va créer trois pavillons, dont, et bien sûr, celui du Cambodge. Certains éléments de ces pavillons seront intégrés plus tard au parc de Mauts-Lévriers. Ça a été recyclé là-bas.
Ah, c'est pour ça.
Et oui. Et donc, Alexandre Marcel deviendra l'architecte du domaine avec un chef jardinier du château. Il va créer le parc sous forme d'un paysage japonais dont la promenade suivra les rives de la Moigne. Ils vont y creuser un étang, élargir la rivière, planter de nombreux arbres, ça s'est pas fait tout seul, hein. Et bien évidemment inclure dans ce nouveau paysage des éléments orientaux de l'exposition universelle. Ce jardin sera entretenu par une quarantaine de jardiniers jusqu'en 1940.
Alors la guerre va passer là, j'imagine.
C'est
On peut imaginer que tout a dû être abandonné.
Bah, tu imagines bien, oui. Le château avec le parc ont été vendus et puis abandonnés. Ils sont tombés dans l'oubli pendant 40 ans. Et c'est l'attachement et la passion des habitants de Mauts-Lévriers qui vont le ressusciter. Ils ont une belle idée. En 1980, la commune rachète le parc, le fait classer au titre des sites naturels français. Les Mauts-Lévriers vont se mobiliser pour défricher le jardin bénévolement. Et ils vont ensuite créer en 1982 une association pour en assurer la sauvegarde et la gestion. Donc, grâce à leur engagement, le parc de Mauts-Lévriers ouvrira ses portes au public le 15 juin 1985. Il sera reconnu par trois spécialistes japonais comme un jardin de promenade.
D'accord. Et en quoi est-il particulièrement oriental, le parc, Didier ?
Eh bien, en fait, c'est un véritable jardin japonais. Par exemple, la rivière coule d'est en ouest, comme la course du soleil, et symbolise donc la vie humaine, de la naissance à la mort.
Ah, c'est pour ça.
Et oui. Dans le lac, au milieu des eaux calmes, il y a l'île de la grue et de la tortue, qui symbolise le paradis shintoïste. Autour du lac, les arbres ont leurs couleurs qui alternent entre chaque saison. Cela évoque la jeunesse au printemps, l'âge adulte durant l'été, le début de la vieillesse durant l'automne et le passage à la mort en hiver.
Waouh !
Eh oui ! Et après, du jardin, près du jardin de la pagode, un mouvement d'eau rappelle les aléas de la vie humaine. Le parc
oriental.
Oui, c'est
très symbolique.
Oui, oui. Ah, bah là, on y est à fond.
En plein symbole.
Ça, c'est clair. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Le
parc
oriental de Molivrier, c'est comme une horloge de vie avec ses variations de couleurs au fil de l'année, avec la floraison de blanc et de rose des cerisiers, les azaléas au printemps, le vert en été et le flamboiement des érables en automne. On peut imaginer que c'est magnifique.
Il mérite bien sa réputation de jardin oriental, alors.
Ah, clairement, oui, ça, pour la mériter, il la mérite, oui. C'est un tableau géant en constante évolution avec des principes esthétiques. Il y a des composantes essentielles, l'eau, le minéral, le végétal, la circulation de la montagne vers la mer, avec les perspectives visuelles basées sur le cachet dévoilé, pour découvrir le jardin progressivement. Et donc, du coup, on y retrouve des lanternes, toute différence est unique, qui symbolisent la présence de l'homme et la connaissance.
Oui, les belles lanternes
c'est
de pierre.
C'est ça, ouais, très très joli. On y voit des arbres avec des shime nawa, les cordes tressées qui indiquent la présence d'un esprit sacré, un kami. Et bien sûr, les arbres sont taillés en forme de nuages. Ça, j'adore.
Ah oui, moi aussi.
Ah oui, ça.
Alors, il y a des animations, des expositions.
Oui, oui, bien sûr. Alors, forcément, Anami, ça, c'est clair.
Ah oui, Anami.
Bien sûr, avec la possibilité de réserver son pique-nique japonais.
Ah, ça doit être bien.
Tout très, très bien expliqué sur le site, de toute façon. Vous pourrez retrouver ça assez facilement. Les informations pratiques que je peux vous donner, c'est les visites libres qui se font du 15 mars au 15 novembre, de 10h30 à 19h. Une visite guidée, elle est proposée gratuitement chaque dimanche et les jours fériés à 14h30. Le tarif en 2024, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Puis sinon, l'entrée est à 9,50 et 10 euros pour la nuit. Voilà.
C'est pas très cher quand
non,
même.
Non, c'est pas très cher.
Parce que c'est une vraie super balade. On peut y passer la journée sans problème.
C'est ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est...
Et puis, si on a des sous, on peut aller dormir au Château Colbert.
Et voilà.
C'est un hôtel de luxe, je crois.
Écoute, du coup, il y a moyen de passer un joli week-end, alors.
Ah oui, je pense.
Bon,
et
bah
d'avoir
alors.
Voyagé pour pas trop cher, quand même.
Eh bien, on espère
bon,
avoir
Didier,
donné envie.
Merci.
Mais,
Asiologie, c'est fini, les amis. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis, vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Salut.
Et si vous êtes allé là-bas, vous nous envoyez des photos sur la page Facebook.
Ah oui, ce serait super sympa.
Ça.
Oui,
allez.
Ce serait vraiment sympa.
À bientôt, belle semaine.
Salut.